Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est la dure loi de la nature. Tous les animaux n'ont pas la même place dans le cœur des hommes. Tandis que nous dépensons des millions pour la reproduction des pandas, que des ONG sillonnent les mers pour la protection des baleines et que le régime vegan fait chaque jour de plus en plus d'adeptes, eh bien il est encore des animaux qui échappent totalement à l'empathie humaine, au premier rang desquels les moustiques, de charmants insectes qui nous rappellent chaque été que l'homme n'a pas totalement maîtrisé la nature et qu'il demeure une proie, même pour de si petites bêtes. Et s'ils n'ont pas leur pareil pour ruiner un dîner en terrasse à la tombée de la nuit, les moustiques sont surtout vecteurs de maladies. Le paludisme, pour ne citer que la plus connue, est responsable de milliers de morts à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il est de loin l'animal le plus meurtrier pour l'homme. Alors pourquoi ne pas imaginer un futur libéré de cette espèce? La tentation est grande, mais un monde sans nuisibles est-il vraiment souhaitable? Faut-il éradiquer les moustiques? Eh bien, c'est le débat que nous aurons ce soir avec trois invités autour de la table. Annabella Fayou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entomologiste médicale, directrice de recherche à l'unité arbovirus et insectes vecteurs de l'Institut Pasteur. Entomologiste, ça veut dire que vous êtes spécialiste des insectes.
Je suis spécialiste des insectes et comme je suis à l'Institut Pasteur, je m'intéresse plutôt à tout ce qui est en relation avec la santé humaine. Donc je suis entomologiste médicale.
À vos côtés pour discuter ce soir, François Letourneux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, et président également du Conseil scientifique et éthique de Camargue. Et puis dernier invité, Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, président du site Vigilance Moustique. C'est un site qui a été créé en 2013, qui se présente comme le premier site d'information actualisé sur les moustiques. Il fonctionne sur un principe de vigilance citoyenne. Ça veut dire que n'importe qui peut vous contacter pour signaler la présence ou l'évolution de moustiques dans sa région. Il est très consulté, hein, 300 000 visites uniques par an. Il est actualisé tous les jours. Et c'est un site, il faut signaler, qui est en partenariat avec une marque de produits anti-moustiques.
Oui, alors tout le monde peut contribuer au contenu, nous déclarer des cas, mais en revanche, nous ne publions que les informations qu'on a pu vérifier auprès de pharmacies sentinelles locales. La présence d'un moustique, elle peut nous être déclarée, mais on va toujours vérifier que le phénomène est bien enregistré par les pharmacies du coin.
Alors, je voudrais commencer par vous faire entendre cette initiative qui a été prise par le maire de Briolet dans le Maine-et-Loire. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un arrêté municipal qui interdit, ni plus ni moins, l'entrée de la ville aux moustiques.
La démarche fait sourire.
Il faudrait d'abord apprendre aux moustiques à lire, hein, peut-être que...
Le texte est bel et bien affiché sur la façade de la mairie, en bonne et due forme, au milieu d'autres arrêtés plus sérieux.
Oui, il est affiché sur le panneau.
André Marchand, le maire de Briolet.
Donc l'arrêté, il stipule l'article 2, monsieur le maire, pour la commune de Briolet, interdit aux moustiques de s'introduire sur le territoire de sa commune.
C'est un peu d'ironie, c'est un peu, voilà, ça fait pas de mal de temps en temps.
Le problème a pourtant été bien réel au début du mois, une invasion de moustiques.
Ça veut dire que vous ne restez pas le soir manger sur votre terrasse, c'est impossible. On les voit arriver par dizaines, par centaines, quoi. J'étais souvent interpellé, quoi. Voilà, que fait le maire?
À l'origine de cette invasion, des crues tardives et donc en période de forte chaleur, dans cette commune située à 59% en zone inondable.
On avait environ 3000 hectares d'inondés et l'eau a recouvert l'herbe. Donc les moustiques ont pu pondre. Là, c'était un endroit idéal. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, je pense qu'on aura des crues encore plus fortes et peut-être encore plus tardives.
Alors, c'était extrait d'un reportage de Delphine Evenou sur France Inter le 26 juillet dernier. Invasion, c'est un terme qui revient de plus en plus, hein, quand on parle des moustiques. Stéphane Robert, est-ce que vous pensez que ce terme est approprié? Est-ce qu'il y a vraiment des invasions de moustiques en France?
Alors, ça dépend des années. Hein. Cette année, il y a 26 départements qui ont déclaré une prolifération inhabituelle. Alors, invasion, prolifération, pullulation, le terme peut varier, mais en tout cas, le phénomène existe. En 2013, on avait 42 départements dans ce qu'on nous on appelle en vigilance orange. Donc, c'est un phénomène, il y en a eu 16 départements en 2015, donc c'est un phénomène assez récurrent. Et on voit bien là que il y a un seuil en dessous duquel les gens supportent la présence du moustique, et un seuil au-dessus duquel plus personne ne supporte, et commence à avoir des témoignages un peu exacerbés, parce qu'on perd un peu la raison, on dit on n'en peut plus, on ne peut plus sortir de chez nous, je sors 3 minutes, je me fais piquer 10 fois, c'est tout le temps la même chose. Ça veut bien dire qu'en dessous d'un certain seuil, les gens vivent avec, et au-dessus d'un certain seuil, ils ne le supportent plus.
Oui, mais c'est un seuil du coup qui est très subjectif. Est-ce que c'est à ça qu'on peut vraiment mesurer si on est dans une période inhabituelle de présence de moustiques, François Le Tourneux?
En Camargue, c'est très facile à voir. Les Camarguais sont fiers vis-à-vis des touristes de s'accommoder des moustiques. Sauf quand il y a un bloom, c'est-à-dire une pullulation. Et la pullulation, elle se produit chaque fois qu'on met en eau, comme ça a été dit tout à l'heure, ça a été dit tout à l'heure à propos d'un événement climatique, d'une crue. Mais lorsque les chasseurs mettent en eau un étang, tous les œufs de moustiques qui ont été déposés sur le sol éclosent en même temps, les larves aussi et les insectes aussi. Et on a à ce moment-là effectivement un moustique au centimètre carré quand on va avec son verre de pastis de sa maison à sa tonnelle. Donc c'est vrai que c'est dur. Alors, c'est ces blooms et ces pullulations, comme ça a été dit, qui sont considérés comme insupportables. Les touristes qui supportent pas le moindre moustique, vaut mieux qu'ils aillent ailleurs qu'en Camargue.
Vous avez dit un bloom, d'où vient ce terme?
C'est un terme qui s'applique à toutes les pullulations d'espèces animales qui se font par une espèce d'explosion. Parce que des conditions favorables, globales, sont constatées.
En parlant de conditions, justement, est-ce que les phénomènes de canicule qu'on vit de plus en plus, et puis qui étaient particulièrement forts cet été 2018, peuvent expliquer en partie les blooms, donc la pullulation de moustiques en France, Annabella Fayou?
Mais il faudrait déjà dire qu'en fait, il y a 3500 espèces de moustiques et tous ne piquent pas l'homme. Il n'y a que moins de 10% qui piquent l'homme. Et ceux qui nous piquent, en fait, ils habitent à côté de nous. Donc, en fait, nous créons les conditions qui sont propices au développement de ces moustiques. Et notamment, quand il fait chaud, on a des contenants d'eau, des vases, des piscines, plastiques, des petits pots avec de l'eau. Et ces genres de petits gîtes artificiels, les moustiques adorent. Donc, notamment, notre moustique tigre, il prolifère là-dedans. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec les changements climatiques. Ça a à voir avec l'activité humaine. Là où il y a des gens, il va y avoir des gîtes larvaires, il y aura des moustiques.
Pour vous, il n'y a pas de lien entre les phénomènes caniculaires et l'augmentation des moustiques?
Il peut y avoir de façon indirecte, mais le premier facteur, en fait, c'est les activités de l'homme qui font qu'on crée des conditions propices au développement de ces moustiques. Ensuite, évidemment, chez nous, on a une période où les moustiques se développent qui va du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Donc forcément, on est période relativement chaude. Donc on ne peut pas exclure le fait que la température agit sur le développement des moustiques. Mais la température va... où l'eau va faire éclore des œufs de moustiques qui sont dans des grands étangs, qui ne sont pas forcément des moustiques qui piquent l'homme. Il y a certaines espèces qui piquent l'homme, mais pas toutes.
Stéphane Robert?
Oui, alors en général, ce qu'on explique, c'est que normalement, une larve pour devenir adulte va prendre 10 jours s'il fait 23 degrés la journée et 15 degrés la nuit. C'est la règle à peu près moyenne que nous avait établie le docteur Isry quand on avait établi notre méthodologie cartographie. Mais le problème, c'est que quand il fait plus de 23, voire plus de 30 degrés le jour et plus de 20 degrés la nuit, eh bien, le processus se raccourcit. Et au lieu de mettre 10 jours, il va mettre 7 jours. Et donc, vous avez de plus de générations de moustiques qui vivent en même temps. On dit qu'un moustique femelle peut pondre entre 2000 et 3000 œufs sur son cycle de vie entre 30 et 45 jours. Imaginons qu'elle ponde 2000 œufs, dont 1000 femelles. Ces 1000 femelles vont à leur tour elles-mêmes pondre 2000 œufs, par exemple, pendant leur vie entière. Donc vous êtes déjà à 2 millions de moustiques issus de du premier moustique femelle. Et donc plus le temps se rétrécit à cause de la chaleur, plus le cycle de prolifération augmente. Donc c'est juste une augmentation. Le cocktail idéal, c'est un printemps très 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 pluvieux avec plein d'étendues d'eau partout. Et puis après, une grosse chaleur qui fait que les cycles de transformation de la larve en moustique adulte se rétrécit et la prolifération augmente.
Un printemps pluvieux et un été avec des fortes chaleurs, ça nous fait penser à une certaine année 2018. Justement, quand on nous dit qu'il faut s'attendre dans les années à venir à de plus en plus de phénomènes de ce type-là, je repose un peu la question, mais donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de moustiques en France métropolitaine.
Qu'il y ait de plus en plus souvent trop de moustiques, disons ça comme ça. Mais alors les moustiques, vous l'avez dit très justement, les moustiques ils piquent pas tous. En tout cas, c'est dans la nature Culex en France pour l'essentiel, Culex pipiens, et c'est le moustique tigre comme vous l'avez très justement dit près des maisons. Le moustique tigre il se fait porter par le vent, c'est comme ça qu'il colonise des départements, mais en général il vit dans un rayon de quelques mètres ou de quelques dizaines de mètres. Il pique chez lui, donc il est chez vous, vous êtes chez lui, enfin etc. c'est un peu embêtant parce qu'il est, il peut être contaminé.
Annabella Fayou.
Ben, oui, ce moustique tigre, il n'est pas arrivé en volant déjà en France. Hein, il a passé la frontière italienne lié en fait à des échanges commerciaux qu'on peut avoir avec l'Italie. En fait, l'anecdote, c'est de dire que le moustique tigre, il est arrivé la première fois en 1979 en Albanie, à partir de la Chine. Et à l'époque, l'Albanie vivait en vase clos et le moustique n'est pas sorti. Il est resté dedans. Ensuite, deuxième épisode d'entrée, c'était à partir des États-Unis. Il est venu dans des pneus réchappés jusqu'à Gênes, le port de Gênes. Et à partir du port de Gênes, ce moustique s'est proliféré à coloniser tous les gîtes autour et même toute l'Italie. Et à partir de là, 20 pays européens aujourd'hui sont colonisés par ce moustique. Et chez nous, en fait, on a 42 départements où on a recensé ce moustique. Donc le moustique, il est introduit par les activités humaines. Ensuite, la diffusion se fait par les gens qui bougent, les transports et tout ça. Et parce qu'on a des conditions climatiques relativement propices à ce développement, ça fait un bloom. Ça fait un bloom et donc le moustique, il s'accommode très bien d'être chez nous.
On parle beaucoup effectivement du moustique tigre avec de manière parfois un petit peu angoissante. Qu'est-ce qu'on craint exactement de ce moustique? On dit qu'il est porteur de maladies peut-être plus que les autres, porteur de la dengue, du chikungunya, du virus Zika. Vous me corrigez, Stéphane Robert?
Alors, il n'est pas forcément porteur, il est capable de transmettre ces trois virus-là, mais pour qu'il les transmette, il faut qu'il ait lui-même contracté le virus en ayant piqué quelqu'un qui avait la dengue, le chikungunya ou le Zika. Donc, le cas typique, c'est, je reviens de la Réunion où j'ai attrapé la dengue, je suis en France, en métropole, dans un département colonisé par le moustique tigre, un moustique tigre me pique. Il prend le virus de la dengue et ensuite il est capable de le donner à quelqu'un d'autre qui vit à côté de moi, chez mon voisin. Et donc s'il va piquer ce voisin, on aura à ce moment-là un cas autochtone, c'est-à-dire un cas de dengue attrapé en métropole.
Donc quand on dit 42 départements en France où on recense la présence de moustiques tigres, est-ce qu'il faut s'en inquiéter très clairement ou finalement se dire on n'est pas totalement prêt d'avoir une épidémie de dengue en France quand même, François Letourneux?
Je pense qu'il faut considérer en effet qu'on n'est pas tout à fait prêt d'avoir une épidémie de dengue en France. Il faut aussi se souvenir que c'est des maladies qui sont sérieuses, en particulier Zika, qui ont causé beaucoup de malades et un certain nombre de morts
Brésil,
en outre-mer, oui, ou puis dans les départements d'outre-mer, et qui a un risque potentiel. Et qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'une situation locale. Mais jusqu'à présent, quand il y a eu des cas autochtones, ils ont été circonscrits assez rapidement. On n'a pas eu d'explosion. Dans un coin, il y a un cas ou deux cas douteux de chikungunya. Eh bien, on va bien surveiller et là, traiter vigoureusement l'ensemble des sites à moustiques et des moustiques et s'en débarrasser. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Mais écoutez, nous, dans notre laboratoire, on fait des infections artificielles de moustiques tigres. C'est-à-dire, en fait, on lui donne le virus dans un repas de sang. Donc on a donné une série de différents virus et ce moustique est capable de transmettre 26 virus différents, dont la dengue, le chikungunya, le Zika, la fièvre jaune.
C'est-à-dire qu'il arrive à transmettre des maladies beaucoup mieux, beaucoup plus que d'autres espèces de moustiques.
Quand on dit qu'il est capable de transmettre, c'est-à-dire qu'on lui donne à manger, il est capable de recracher quelques jours après le virus de la salive. Ça veut dire que la femelle de moustique, quand elle va repiquer à nouveau, elle va pouvoir recracher de la salive parce qu'elle a besoin de recracher de la salive parce qu'il y a un anticoagulant qui lui permet d'absorber le sang. Et donc, on a retrouvé dans la salive du moustique du virus. Ce qui dit que le moustique est compétent à transmettre le virus.
Alors, vous évoquiez, François Letourneux, la question des contrôles sur la lutte. La lutte contre les moustiques n'est pas nouvelle. Je voulais vous proposer d'écouter une archive de 1950. C'est un extrait d'un film qui a été produit par l'Office d'information de guerre américain sur les méthodes de transmission du paludisme.
Les œufs flottent et éclosent bientôt. Afin de respirer et de se nourrir, les jeunes larves se tiennent près de la surface de l'eau. À ce stade de son développement, il est donc facile de détruire le redoutable moustique. Quand il atteint l'état adulte, par contre, il devient un danger pour le genre humain à plus d'un kilomètre de son lieu de naissance. Allons-y, messieurs. À présent, nous pouvons ouvrir le combat. Le moustique dépose de préférence ses œufs dans les endroits où poussent des plantes aquatiques. Commencez donc par couper ces plantes. De cette façon, les poissons pourront facilement attraper les larves et les dévorer. Un moyen sûr de détruire les larves de toutes les espèces de moustiques est de répandre sur l'eau une couche de pétrole. Le pétrole pénètre dans la trachée de la larve et la tue instantanément. Un autre moyen de détruire les larves est de saupoudrer l'eau d'arséniate de cuivre. Cet insecticide économique, communément appelé ver de Schill, est recommandé pour recouvrir les grandes pièces d'eau. Une mince couche suffit à tuer les larves sans danger pour les poissons. Puisque les moustiques peuvent y déposer leurs œufs, toutes les eaux stagnantes représentent un danger. Il faut donc les faire écouler.
Mettre du pétrole dans l'eau, est-ce que c'est une technique qui existe encore, François Letourneux, pour chasser les moustiques ?
Non, on a connu des méthodes brutales. On a connu une époque où les insecticides violents étaient utilisés. On a pu développer le Languedoc-Roussillon au point de vue touristique parce qu'à l'époque, on n'avait pas de scrupules. On en a plus maintenant, Dieu merci, des scrupules. Mais ce qu'on constate, c'est que toutes les méthodes, chaque méthode a ses limites et chaque méthode a ses inconvénients. Et que... Imaginez qu'on puisse, et c'est un peu le titre de votre émission, imaginez qu'on puisse trouver une solution miracle et simple pour régler le problème et sûrement une erreur. C'est, comme ça a déjà été évoqué, une combinaison d'actions dosées, prudentes, attentives, et qui peut faire progresser les choses. En imprégnant les moustiquaires de produits répulsifs, on a diminué de 60% le paludisme. Ce n'était pas la solution miracle de la recherche sur le moustique transgénique dont nous parlerons tout à l'heure. C'était une solution simple qui a eu des effets partiels. Et il faut bien comprendre que la biodiversité, c'est pas une collection d'insectes posées d'espèces posées les unes à côté des autres, c'est d'abord des rapports entre les espèces, des relations, des complémentarités, une façon d'évoluer ensemble dans l'évolution de la vie. Hein. On a évolué avec le moustique, et on a pris des habitudes communes et on se vaccine l'un contre l'autre, ou au contraire on redevient sensible à telle ou telle attaque. Donc tout est compliqué, et Dieu merci, c'est passionnant. Et les solutions seront compliquées.
Et parmi les solutions, on entendait aussi dans l'archive la lutte contre les eaux stagnantes. Et ça n'a pas changé aujourd'hui encore.
Oui, mais la moitié des eaux minées ont disparu de France en 50 ans. C'est une catastrophe écologique. Donc, c'est une solution partielle. C'est vrai que près des villes, il faut contrôler l'état des sanitaires des eaux stagnantes. Mais imaginez, je parle pour ma paroisse, imaginez qu'on considère qu'il faut monter la Camargue de 3 mètres et assécher la Camargue. Elle perdrait un peu de son caractère, de son intérêt écologique et même de son intérêt touristique. Donc c'est des solutions un peu brutales, disons, pour employer une litote.
Alors, les eaux stagnantes, effectivement, là on parle de la Camargue, mais on peut aussi évoquer les petites eaux stagnantes, celles qui sont dans les maisons, dans les jardins. Est-ce que ça veut dire que la lutte anti-moustique, elle passe en fait d'abord par des petites actions individuelles avant de penser une grande politique publique ? Stéphane Robert ?
C'est exactement ça en fait. Et tout à l'heure, Annabella avait raison de dire que le moustique tigre est un moustique urbain, donc est lié à l'activité de l'homme. Et pourquoi on en parle autant ? C'est que autour de nous, dans nos jardins, sur nos terrasses, on crée des toutes petites surfaces d'eau stagnante. On ne parle pas de la Camargue, il suffit de quelques millilitres d'eau cachée dans un objet oublié au fond du jardin. Et le moustique femelle va pouvoir y pondre ses œufs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des eaux stagnantes, mais en petit format, pas du tout. On ne menace pas du tout les grandes surfaces de zones humides de France. C'est juste les eaux stagnantes en espace urbain.
Annabella Fayou.
Mais écoutez, oui, si on réduit en fait ces sources de gîtes larvaires, je pense qu'on peut régler au moins 50% des problèmes de nuisance, c'est-à-dire en fait le moustique vu comme un piqueur. Bon, on passe à côté le fait que ça peut être aussi un vecteur d'agents pathogènes responsables de maladies. Mais en tant que nuisance, si on nettoie son jardin, ça va réduire les densités de moustiques. Mais ceci étant, si nous le faisons et le voisin ne le fait pas, et comme le moustique, il vole, donc ça va être compliqué. Donc il faut absolument qu'il y ait une action collective pour que l'ensemble de la population s'astreigne à nettoyer leur jardin.
Alors on parle des actions individuelles, mais justement, à partir de quel moment, selon vous, est-ce qu'il est légitime, nécessaire d'employer une politique plus large, vraiment une politique publique ? Et le corollaire, c'est à partir de quel moment on considère qu'on est dans une situation de nuisance publique et non pas simplement d'inconfort personnel. François Letourneux.
Bon, en Camargue, je raconte toujours mes histoires, hein, c'est les rares que je connaisse. En Camargue, on s'est trouvé devant une nécessité de démoustication de confort. On n'a pas traité la question du moustique tigre parce que vous l'avez très bien décrite, Annabella, c'est une autre question. On ne peut pas généraliser. Bon. On a voulu faire une démoustication de confort. On avait exclu la Camargue de toute opération de démoustication au moment où on démoustiquait le Languedoc, parce qu'on considérait que c'était un monument naturel et qu'on pouvait pas utiliser de produits chimiques. Et puis les chercheurs ont trouvé une merveille, ils ont trouvé un produit biologique de lutte intégrée. Et ça s'appelle le bacille de Thuringe, le BTI. Et ils ont utilisé, et c'est un insecticide qu'on trouve dans la nature, dont on renforce les effectifs, si j'ose dire, à bacille, et qui ne s'attaque aux larves de moustiques qu'entre le troisième et le quatrième jour de leur vie. Donc, quand on le pulvérise dans les nappes d'eau, il ne tue théoriquement que les larves de moustiques et il ne les tue théoriquement qu'à un moment précis de leur vie. On a fait ça, tout content. Les écolos étaient tout contents. Ils avaient un procédé intégré de traitement du moustique. Et on a suivi pendant 10 ans les conséquences de ce traitement. Alors d'abord, les gens sont contents. Il reste du moustique, mais il ne reste pas trop. Et si on, comme on ne traite les plans d'eau qu'au moment où on est dans les phénomènes que vous avez évoqués tout à l'heure de Bloom, il y a plus ou moins de ces épisodes brutaux d'agression. Bon, en revanche, il y a des moustiques tous les jours. Ça, c'est bien. Les gens sont contents. Mais en revanche, au bout de 3 ans, on constate qu'il y a moitié moins de libellules. Au bout de 5 ans, on constate qu'il y a moins d'œufs dans les nids d'hirondelles. Et au bout de 10 ans, on constate qu'il y a moitié moins d'hirondelles dans les zones traitées que dans les zones non traitées. Et que l'effondrement des populations d'hirondelles est visible. Pourquoi ? Tout simplement parce que les hirondelles ont moins à manger. Parce que les libellules ont moins à manger, que une libellule c'est très nourrissant, et que lorsqu'une hirondelle court derrière un insecte, elle dépense la même énergie pour attraper une libellule que pour attraper une fourmi volante. Mais le résultat énergétique n'est pas le même. Si elle a attrapé une libellule, elle est nourrie pour la journée. Si elle a attrapé, j'exagère, elle est nourrie pour la demi-heure. Si elle a attrapé une fourmi ailée, elle peut continuer à dépenser de l'énergie pour en attraper d'autres. Donc on a cet enchaînement des circonstances dont on parlait. C'est compliqué. Donc, oui, utiliser le BTI, c'est mieux que d'utiliser du DDT. Oui, l'utiliser localement, à proximité des zones habitées, c'est peut-être tolérable, c'est sûrement critiquable, mais il y a d'autres solutions. On a expérimenté des pièges à moustiques. Enfin, il faut développer tout l'arsenal et pourquoi pas poursuivre la recherche sur d'autres domaines. Mais vous voyez, cette complexité des interactions fait que on se dit, même si on n'agissait que sur le niveau d'eau et qu'on évitait les ennoiements parce qu'on dit aux chasseurs, on dirait aux chasseurs, mettez pas en eau trop vite. Bon. Même si on faisait ça, ben les hirondelles auraient moins à manger. Donc, il y aurait moins d'hirondelles. Donc, c'est un choix politique. Vous voulez moins de moustiques ? Ben, il faudra vous accommoder d'avoir moins d'hirondelles.
Un choix politique, c'est justement un dilemme dans la Camargue, oui, que vous connaissez bien, qui s'est posé dans les années 90. Enfin, je vous dis ça parce que c'est justement une archive que je voulais vous faire écouter de Camargue.
Une guerre de tranchées de 30 ans va s'achever à Arles. La démoustication de la ville et de ses villages camarguais a été décidée. Elle était demandée tous les étés, surtout par les professionnels du tourisme qui voient les visiteurs s'enfuir sous la nuée. Gérard Proch, directeur du camping de Raphaël-les-Arles.
J'ai eu beaucoup de touristes qui se font piquer. Ils ont des bras, des chevilles qui ronflent. Quand ils vont chez le médecin leur dit soit d'aller à l'hôpital, soit de quitter la région. Point à la ligne. Le soir, on a une invasion qui est terrible. C'est impossible de rester dehors. Il faut rentrer. Les moustiques attaquent. Ce sont des vraies escadrilles. En compte, environ 200 piqûres sur une personne. 200 dans la soirée. Je ne sais pas si vous voyez à la vitesse où ils attaquent. Mais c'est des nuées.
Les défenseurs de l'environnement, rangés derrière le parc de Camargue, refusent l'insecticide au nom de l'équilibre écologique et ils réclament des études supplémentaires pour une durée de 5 ans. Michel Vauzel leur a concédé quelques semaines avant d'engager des actions expérimentales sur les zones protégées, mais les surfaces urbanisées seront traitées tout de suite.
La fin des années 90, je ne sais pas si ça correspond à la période que vous étiez en train de nous décrire justement.
Ça correspond précisément à ce que je vous disais. On ne traite qu'à proximité des habitations, c'est expérimental. Nous, on est convaincus que ce n'est pas une très bonne solution. On préférerait de beaucoup, s'ils continuent de faire leurs preuves, les pièges à moustiques qu'on a mis en place, qui sont des machines très simples, qui envoient des bouffées de gaz carbonique dans l'air, qui imitent un dormeur, si vous voulez. Ça envoie des bouffées de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Ça attire les moustiques, ils viennent se faire prendre dans un piège. Bon, il paraît, enfin moi je l'ai expérimenté, je le confirme, mais c'est efficace dans un rayon de quelques centaines de mètres. Il suffirait d'en mettre une dizaine par village et on ferait baisser la tension. Bon, mais ça n'est pas la solution miracle. Je connais des gens qui ont acheté un piège à moustiques et qui en sont très mécontents, donc je ne veux pas en dire que du bien. Mais en revanche, si on nettoie les gîtes larvaires, comme le disait Annabella, si on a le piège à moustiques, et si de temps en temps on se laisse aller à employer du BTI, parce que c'est mieux quand même que le DDT, on arrivera à contrôler la situation.
Quel recul on a aujourd'hui sur l'utilisation des insecticides contre les moustiques ? Stéphane
Robert.
Alors,
moi je voudrais juste rebondir sur la question précédente, parce que... les témoignages qu'on a, nous, on a 5000 déclarations de cas, et... Il y en a la moitié qui parle de moustique tigre et l'autre moitié qui parle de moustique commun. Et il y a vraiment deux types de déclarations de cas. Le premier cas, c'est ça y est, il y a des moustiques, j'en ai tué un, etc. Puis le deuxième type, c'est la déclaration exaspérée de quelqu'un qui en a ras-le-bol des moustiques. Et tous se retournent vers les élus en disant ce qui contribue à l'exaspération de la personne, c'est qu'ils ont l'impression que ce problème-là n'est pas pris en compte. Ils ne savent pas contre qui se tourner. Ils disent, que fait la mairie? Que font les élus? Etc. Et du coup, ils disent, je vais abandonner mes vacances ou je vais déménager. Et le fait que ce ne soit pas pris en compte par les élus, ça amplifie l'exaspération. Donc, à mon avis, il faut absolument que les élus s'en préoccupent. On aime bien vivre dans une ville où il y a des belles fleurs et où il n'y a pas trop de moustiques. Ça fait partie des contraintes de l'environnement que les élus doivent assumer.
Donc, selon vous, multiplier les opérations de démoustication, mais la question est avec quel outil et précisément est-ce qu'il faut le faire comme dans la fin des années 90 avec l'utilisation massive d'insecticides?
Bon, mon voisin est certainement plus capable scientifiquement de... Moi, je suis pour un système où on tente toutes les expériences. Ces machines dont on a parlé, les machines Kista, là, qui sont testées en Camargue, il y en a d'autres qui fonctionnent en réseau, qui sont inscrites en réseau pour protéger des espaces plus fermés. Moi, j'imagine un propriétaire d'une terrasse d'un hôtel avec terrasse dans les Alpes-Maritimes et sa terrasse est désertée parce qu'il y a trop de moustiques sur sa terrasse, il a envie d'éradiquer l'espèce, il a envie de protéger son espace privé. Il ne s'agit pas de supprimer l'espèce en général, c'est son espace privé, il a besoin pour l'exploiter.
Annabella Fayou, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle, ça c'est certain. Surtout l'utilisation d'insecticides. Alors, l'utilisation d'insecticides, ça génère des populations de moustiques qui deviennent résistantes à ces insecticides. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser des doses de plus en plus importantes pour pouvoir tuer une même proportion de moustiques. Donc, ça va faire quoi? En fait, c'est une espèce d'enchaînement, d'armement, aussi bien de nous-mêmes que du moustique. Le moustique, ayant une génération relativement limité, va pouvoir s'adapter sur le long terme à développer ce qu'on appelle des populations de moustiques résistantes. Donc, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, sachant qu'aujourd'hui, en fait, l'Union européenne nous impose que quelques molécules d'insecticides. Il y en a très peu. Et même dans le cas d'une épidémie, on a très peu d'insecticides à notre disposition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vivre avec le moustique qui nous pique, mais qui n'est pas à l'origine de l'épidémie, ou bien tuer tout et...
On a un concurrent sérieux, c'est les agriculteurs, parce que eux aussi ils utilisent des insecticides, ils en utilisent même beaucoup. Il y a eu l'année dernière une étude passionnante qui a été faite par une association allemande qui s'appelle la Krefeld et qui a suivi l'évolution du poids total d'insectes dans les aires protégées allemandes, dans les réserves naturelles allemandes. Ça s'est effondré de 80% depuis 1989.
Mais justement, est-ce que les moustiques font partie de ces insectes dont la population est en diminution drastique?
Globalement, oui, pas à cause des quelques traitements qu'on pratique pour lutter contre le moustique tigre ou autre chose, mais à cause de l'ensemble des traitements insecticides, notamment agricoles. Mais en tout cas, moins 80% d'insectes, on le voit bien sur nos pare-brises, il n'y a plus à acheter de lave-glace. Donc c'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Et s'il y a moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux. S'il y a moins d'oiseaux, etc. Et s'il y a moins d'insectes, il y a moins de pollinisation, parce qu'il n'y a pas que les abeilles des ruches domestiques qui trinquent aussi, qui sont capables de créer notre nourriture. Il y a aussi tous les insectes sauvages. Donc, oui, il y a une vraie question. Il faut se la poser politiquement. De même qu'on peut se poser la question de savoir si on veut des hirondelles et des moustiques ou pas d'hirondelles et pas de moustiques. Il faut se poser la question de savoir jusqu'où on va dans la stupidité. C'est-à-dire que pour arriver à manger, on se passera de complètement de vie sauvage. Enfin, c'est quand même une vraie question.
Stéphane Robert, quand vous disiez tout à l'heure, je comprends le propriétaire d'une terrasse dans les Alpes-Maritimes qui a envie d'éradiquer l'espèce, mais comment est-ce qu'on prend cette considération avec le problème de la biodiversité qui est en danger? Et clairement, on le sait, donc c'est diminution drastique d'insectes en France et ailleurs.
Moi, j'aurais tendance à raisonner au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gèrent un petit espace privé et qui ont besoin de protéger cet espace privé parce qu'il représente toute leur vie, c'est leur emploi, l'emploi de leurs salariés, etc. Et ils ne menacent pas, j'ai pas le sentiment qu'ils menacent une espèce entière en voulant protéger son petit espace. En revanche, que des politiques de la ville, des politiques d'organismes territoriaux, eux, se préoccupent de la préservation de la biodiversité, ça je comprends, et qu'on ait des solutions. Le BTI semble une solution pollution qui a fait ses preuves, mais qui est effectivement un peu en limite. Je crois qu'il me semble qu'il y a deux molécules qui sont autorisées aujourd'hui et reconnues efficaces. Et ces deux molécules, ça suffit tellement peu que il me semble que l'EID Méditerranée a demandé à ouvrir la recherche pour accepter trois nouvelles molécules, trois nouveaux insecticides, deux larvicides et un adulticide, il me semble, parce que deux, ça ne suffit pas pour protéger, effectivement, pour lutter efficacement contre les moustiques.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Faut-il éradiquer les moustiques? C'est le débat qu'on a ce soir jusqu'à 19h avec Anna Bella Fayou, entomologiste médicale à l'Institut Pasteur, François Letourneux, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement et aussi président du Conseil scientifique et éthique de Camargue, et Stéphane Robert, président du site Vigilance Moustique. Je voulais vous demander, quelle serait la conséquence sur la chaîne alimentaire de la disparition des moustiques? Anna Bella Fayou.
Ça a été bien dit tout à l'heure. Je pense que s'il n'y a plus de moustiques, comme ils représentent en fait une biomasse assez importante, il y aura toutes les conséquences évidemment sur tous les prédateurs. Les prédateurs qui peuvent être les libellules, qui peuvent être les oiseaux, les poissons. Ils n'auront plus à manger. Et donc forcément, par répercussion, la densité de ces populations va aussi diminuer. Et en même temps, le stade larvaire des moustiques, hein, les larves, sont des très bons filtreurs. Donc ils nettoient l'eau. Donc ils vont faire en sorte que la matière organique soit recyclée. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que le moustique sert à rien.
Les moustiques ne servent pas à rien, François Letourneux ?
Non, bien sûr. Et puis, il y a un autre risque qui est ajouté à ce que cite Annabella, c'est que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que si les moustiques, on les élimine, qu'est-ce qui prendra leur place ? On a arrêté complètement la pêche à la morue. Vous allez me dire que c'est une loi du moustique. On a arrêté complètement la pêche à la morue à Terre-Neuve. Mais la morue n'est pas revenue, parce qu'entre-temps, il y avait plein de crustacés, notamment, qui avaient pris sa place dans la chaîne alimentaire. Donc, les pêcheurs de morue pêchent toujours pas de morue. Et donc là, on risque d'avoir des tas de phénomènes en cascade comme celui-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais il faut se doter d'une solide base scientifique avant de décider, et puis savoir qu'il y a des effets imprévisibles, que tout le passé nous a 100 fois raconté qu'il ne fallait pas se contenter des solutions simples, qu'il fallait les combiner, être très prudent et les observer et en tirer les conséquences.
Alors il y a une nouvelle technique apparemment très prometteuse pour neutraliser les moustiques qui est en train d'émerger. C'est une technique génétique. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un entretien avec Éric Marois. Il est biologiste et chercheur à l'INSERM de Strasbourg, et c'est extrait d'un documentaire sur Arte de 2016.
On commence à envisager maintenant des nouvelles technologies passant par des moustiques transgéniques dotées de ce qu'on appelle le forçage génétique. C'est-à-dire que le transgène, cette fois-ci, va être capable de se répandre dans la population de moustiques et de l'envahir jusqu'à potentiellement transformer toute l'espèce considérée. Et je parle bien d'une seule espèce de moustique. Il y a 3400 et quelques espèces de moustiques. On va travailler au cas par cas, c'est-à-dire qu'on va choisir le pire vecteur, par exemple du paludisme, et on va essayer de modifier cette espèce-là sans toucher aux autres. La stratégie d'éradication peut être considérée comme assez radicale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a la capacité théorique, du moins pour l'instant, d'éradiquer une espèce. Donc ça pose d'énormes questions éthiques et notamment environnementales. Quelle est la place du moustique cible ? L'espèce particulière qu'on veut cibler dans son écosystème. Est-ce que ça risque de perturber les équilibres, etc. Donc il faut d'une part qu'on soit sûr que ce qu'on fait ne possède pas de risques cachés, qu'on n'avait pas prévu. Donc il va falloir s'efforcer en laboratoire de faire l'inventaire de tous les risques imaginables. Et il va nous falloir une grille d'évaluation des risques pour exclure un à un les risques possibles.
Annabella Fayou, le moustique génétiquement modifié, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez. Est-ce que, donc, aujourd'hui, très clairement, l'homme possède la capacité, via la génétique, d'éradiquer une espèce? Est-ce que vous nous expliquez comment la modification d'un gène peut aboutir à l'éradication d'une espèce?
Bon, dans le cas du moustique tigre, c'est un moustique en fait qui, quand il absorbe par exemple le virus chikungunya, ce virus se multiplie dans le moustique et ensuite la femelle de moustique reste infectée toute sa vie. Donc chaque fois qu'elle va piquer, elle va pouvoir libérer du virus. Donc ce que nous avons fait en laboratoire, on a créé un moustique capable d'avoir un système immunitaire exacerbé Donc dès que le moustique voit le véloci chikungunya, il détruit le moustique chikungunya. Donc ce qui fait qu'en fait au final le moustique n'est plus capable de transmettre le virus puisque le virus va disparaître. Ce sont des manipulations qui sont faites en laboratoire. La plupart du temps, ça prend énormément de temps, ça coûte très très cher, et ce sont des manips qui sont faits en laboratoire, donc dans des cages, on va mimer la compétition entre, par exemple, un moustique sauvage, un moustique qu'on n'a pas modifié, et un moustique qui a été modifié. On les met ensemble et on voit que le moustique modifié prend le dessus du moustique non modifié. Donc on est très content, on est super, ça marche très bien. Mais la vraie vie, c'est pas dans la cage. Il faut ensuite lâcher ce moustique dans la nature. Et là, c'est là où ça commence à se compliquer. Parce qu'en général, le moustique génétiquement modifié est moins compétitif que le moustique sauvage. Donc, en fait, comme le moustique est fécondé qu'une seule fois dans sa vie, notamment la femelle est fécondée qu'une seule fois dans sa vie, donc si cette femelle de moustique est fécondée par un mâle sauvage compétitif, et le mâle transformé, eh bien, il n'arrive qu'après, et donc ça ne marche pas.
Est-ce que vos moustiques génétiquement modifiés ont déjà été relâchés dans la nature ou vous restez pour le moment à des expérimentations en laboratoire ?
La plupart des études actuellement, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur cet aspect-là, tout se situe en laboratoire. Nous n'avons pas encore les autorisations pour sortir le moustique du laboratoire, et en Europe, c'est très très contraignant. Heureusement, parce que sinon on se retrouverait dans une situation où tout le monde fait n'importe quoi. Mais vous avez globalement des projets à l'échelle mondiale de lâcher de moustiques, par exemple, à partir d'un moustique qui contient une bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui est capable en fait de limiter la transmission de la dengue. Vous avez une autre compagnie aussi qui est une compagnie américaine qui vont lâcher des moustiques qui en s'accouplant avec un mâle sauvage, vont donner une descendance qui n'est pas viable parce que cette descendance a besoin de tétracycline pour pouvoir survivre. Et comme il n'y a pas de tétracycline dans la nature, non, ça marche pas. Donc vous avez ponctuellement peut-être maximum 2-3 projets dans le monde où on fait des tests sur le terrain.
Et vous nous parlez d'un projet qui vise, si j'ai bien compris, soigner quelque part le moustique qui a été infecté par un virus. Ce qu'on a entendu dans le son, c'est encore une autre manipulation génétique, puisque là, il s'agit d'empêcher la reproduction, la descendance, et donc à terme, effectivement, d'avoir le pouvoir d'éradiquer l'espèce. François Le Tourneau, qu'est-ce que vous pensez de cet outil-là pour lutter contre les moustiques ? C'est assez vertigineux quand même d'avoir le pouvoir d'éradiquer une espèce.
Alors, dans les années 50, déjà, on avait irradié des mâles moustiques pour qu'ils soient stériles. Et on avait pensé qu'en lâchant beaucoup de mâles stériles, comme il n'y a qu'une fécondation, il y aurait des tas de femelles qui seraient de fait stérile. En fait, l'irradiation ne portait pas seulement, ne stérilisait pas seulement le moustique, elle le diminuait sérieusement, ce qui fait que ça n'a pas été une réussite totale. Mais ça a été testé sur le terrain, notamment en Afrique. Bon, ensuite, on a essayé, enfin, en même temps, comme l'a dit Annabella, on travaille aussi sur une modification qui par exemple rend les larves non viables. Alors, on lâche des moustiques qui ont une maladie, qui communiquent aux femelles et les œufs ne viennent jamais à terme. Alors ça, c'est encore en expérimentation, mais je crois que c'est déjà dans la nature. Alors, ce qui est très intéressant et ce qui montre bien qu'il y a des vraies questions éthiques, c'est que les auteurs de ces différentes méthodes se chamaillent comme des enfants en disant oui, mais moi, les moustiques survivent pas, donc ils peuvent pas en rester dans la nature, donc c'est pas risque, on risque pas de polluer. Les autres disent oui, mais moi, les miens survivent, donc il reste des moustiques, donc c'est moins grave pour la biodiversité. Les autres disent mais moi, mes moustiques, ils sont résistants. Et on leur dit en se grattant le menton, mais ils pourraient bien être résistants à autre chose aussi, ça pourrait bien entraîner. Bon. Enfin, vous voyez, il y a de vraies questions éthiques. Alors, bon, c'est une piste encourageante. Il se trouve que les manipulations génétiques sur les végétaux, c'était une piste encourageante. Elle a été utilisée par Monsanto pour vendre du glyphosate. Donc, on se dit que les plus belles recherches scientifiques méritent d'être confrontées avec les questions éthiques que posait très excellemment votre intervenant du petit passage tout à l'heure. Et d'ailleurs, le Conseil national des biotechnologies a pris un avis extrêmement nuancé en disant super, continuons à travailler, mais surtout ne croyez pas que vous avez trouvé une solution. Hein. Vous avez trouvé un petit bout de solution qui sera peut-être utile dans certains cas et dans certaines conditions, et à condition que les populations locales, pour une fois, comprennent à quoi on joue avec elles.
Stéphane Robert, quel est votre regard à vous sur cette question des moustiques génétiquement modifiés?
Moi, je trouve très positif d'être capable de cibler sur une seule espèce parmi les plusieurs milliers d'espèces de moustiques. Je trouve que c'est très porteur d'espoir. Et si on pouvait cibler en particulier le moustique tigre, qui est un moustique urbain et qui est celui qui crée aujourd'hui, pourquoi on parle de plus en plus de moustiques, c'est que il y a le moustique tigre qui est en train de coloniser la France. Il y a 42 départements vigilance rouge. Il y en a 20 de plus où il a été intercepté ponctuellement. On sait que tout le territoire et c'est un phénomène essentiellement urbain. Donc si on arrive à cibler sur ce moustique-là, je trouve que c'est une bonne solution et qu'il faut l'encourager.
Mais en termes éthiques, comment est-ce qu'on met la limite? Puisque si demain on a ce pouvoir d'empêcher une espèce de se reproduire, on pourrait ensuite l'appliquer au frelon asiatique, à la chenille processionnaire, pourquoi pas au rat, au pigeon. Enfin voilà, comment est-ce qu'on met une limite à ça, Annabelle Afayou?
Producteur d'émissions.
Merci.
Mais écoutez, je pense que ça ne va pas être si simple, hein, parce qu'en fait, au-delà du fait qu'il y a 3500 espèces de moustiques, il y a quand même, au sein d'une même espèce, différentes populations géographiques. La même espèce de moustique tigre, en Asie, en Amérique du Sud et en France, ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il faut faire du cas par cas. Et comme ce sont des technologies excessivement chères, on n'aura pas les moyens de tout faire. Donc forcément, on va être limité par la disponibilité en argent pour pouvoir faire tout ça. Et puis ensuite, c'est comme un peu les vaccins. Hein, qui va pouvoir payer, va pouvoir peut-être être bénéficiaire de ce genre de technologie. Mais en général, ces maladies vectorielles sont essentiellement des maladies du sud, donc de la zone intertropicale, dans une zone qui n'a pas tellement les moyens de se payer ce genre de technologie, qui est vraiment une technologie du nord. Et je caricaturais des fois un fantasme du nord.
Je caricaturais aussi hein, quand je citais hein, les rats, les pigeons. Et c'est simplement pour dire qu'il y a des animaux qui sont considérés dans notre société comme des nuisibles. Alors peut-être que le terme n'est pas totalement approprié. François Le Tourneux, est-ce que le moustique est un nuisible?
Nous, on a eu peur quand on a suivi le traitement au BTI, on a eu peur que les gens jettent leur moustiquaire. On s'est dit, si on est trop efficace, les mesures simples de prévention du moustique, qui consiste tout simplement à avoir une moustiquaire sur son lit. Et éventuellement, je repense à votre terrasse des Alpes-Maritimes, comme il y en a partout en Provence, une terrasse avec une tente et de la moustiquaire autour de la tente, dans laquelle on peut être tranquille le soir à dîner. Ces moyens hyper sophistiqués, ils ont tendance à démobiliser les gens de leur propre capacité d'action. Donc, prudence, en effet.
Stéphane Robert.
Oui, non, je vois bien que la recherche est loin d'arriver au résultat final, donc je pense que l'essentiel c'est d'apprendre à vivre avec les moustiques tels qu'ils se présentent. C'est vrai que en France, on est amené à en connaître de plus en plus, en particulier dans nos espaces urbains, et donc il y a un travail de pédagogie et d'éducation à faire, et chaque année ça recommence parce que les gens oublient. Vous savez qu'il y a 43% des gens qui vivent dans un département où il y a le moustique tigre qui sont incapables de le reconnaître. 35% des gens qui vivent dans un département moustique ne savent même pas qu'il y a le moustique tigre chez eux. Donc il y a tout un travail à faire pour apprendre à vivre avec ces moustiques et ne pas s'en faire un monde en disant quelle horreur, parce qu'on dit il va me transmettre la dengue, le chikungunya. Non, il le transmet que rarement. Les phénomènes dont on parlait d'épidémie, quand il y a une épidémie, s'il y a 15 cas au maximum en France, c'est parce qu'on a un bon système sanitaire qui permet de nous protéger quand même.
On se demandait tout à l'heure à quoi servent les moustiques. J'ai lu en préparant cette émission qu'ils pouvaient aussi servir à préserver certaines zones sauvages, à empêcher le développement foncier et touristique, hein, François Le Tourneux.
Oui, on peut dire ça, oui. Mais enfin, en général, dans ces cas-là, la nature perd. Vous savez, quand on arbitre et que la nature est en jeu, c'est rare qu'elle gagne. C'est rare qu'on arrive à casser du béton pour... Mais je pense que ce qu'on vient de dire, là, c'est extrêmement important, parce que il faudrait pas que, en faisant miroiter aux gens des espoirs, fantasmes du Nord, comme disait Annabella très justement, on oublie qu'en Afrique, si les gens se découragent de se faire donner, d'acheter ou de traiter des moustiquaires, il y aura du paludisme. Là, c'en est certain. Donc il faut absolument que quoi qu'on fasse, là, on conserve des moustiquaires traités dans les coins où il y a des problèmes. Parce que sans ça, on est mal barré.
Eh bien, merci infiniment à tous les trois d'avoir discuté avec nous ce soir de cette question des moustiques. Merci Annabella Fayou, François Le Tourneux, Stéphane Robert, les références, les informations informations, c'est sur la page du Grain à Moudre d'été sur France Culture, ainsi que la réécoute de cette émission et de toutes les autres. Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée comme tous les soirs par l'excellente, vaillante, résistante et même pétillante équipe composée de Marine Lerouge, Isolte Sicard, Imen Melaz, Laïla Saïdi et Copelia Ménardi, réalisation Alexandra Longuet. Prise de son ce soir, Emmanuel Morse-Duncan. Dès lundi, 18h15, eh bien c'est Antoine Janton que vous retrouverez au micro du Grain à Moudre d'été. Pour ma part, je vous souhaite une belle soirée d'été sur France Culture et une bonne soirée.